Faut-il y croire avec Isabelle de Gomain. Bonjour Isabelle.
Bonjour, bonne année.
Et bonne année à vous. Vous revenez ce matin sur les propos tenus par François Fillon, se déclarant gaulliste et chrétien. Et ça vous a amené à vous poser cette question. Peut-on introduire une référence religieuse dans le débat politique?
Oui, alors attention, il faut évidemment mettre de côté tout l'aspect calcul politique des deux François, d'ailleurs François Bayrou comme François Fillon dans cette histoire-là. Mais le sujet de fond est intéressant. Est-ce qu'on peut introduire en France une référence religieuse dans un débat politique? Parce qu'au fond, qu'a vraiment dit François Fillon? Il n'a pas dit que son programme de réforme de sécurité sociale est un programme chrétien, mais qu'il a des principes chrétiens qui tiennent à la dignité humaine, à la solidarité, et qu'il les prendrait en compte pour faire cette réforme.
Alors, ce qui pose une autre question, c'est est-ce qu'une politique peut s'inspirer de la religion?
Alors, ça dépend ce qu'on appelle inspiration religieuse, et notamment, dans le cas échéant, inspiration chrétienne. Est-ce que ça veut dire qu'on s'inspire du christianisme de l'Évangile ou du christianisme de la société chrétienne telle qu'elle a historiquement existé jusqu'à la fin du XIXe siècle? Dans le premier cas, on peut dire que l'Évangile donne des grands principes, un horizon utopique qui peut inspirer des convictions. Dans le second cas, en revanche, c'est plutôt un modèle de société auquel on se réfère, une forme d'identité culturelle qui, en plus, dans ce cas-là, est une identité du passé. Alors attention, on ne peut pas tirer de l'Évangile, ni de la Bible, ni même d'ailleurs du Coran, un programme d'action pour la sécurité sociale. Par exemple, évidemment, j'imagine que François Fillon devait penser au discours sur la montagne, vous savez, où Jésus dit « heureux les pauvres, heureux les faibles », etc. C'est pas un programme de politique sociale. En revanche, ça peut être des principes qui peuvent éclairer une réflexion. Mais même là, il faut faire attention, parce que c'est toujours délicat de revendiquer une identité chrétienne trop forte. Pour un acteur politique, ça va lui revenir sans doute à la figure le jour où on va lui dire « mais alors, il faut que vous aimiez vos ennemis mieux que vos amis », etc. C'est toujours un peu compliqué.
Mais quand on revendique comme ça un principe chrétien, est-ce que c'est contraire au principe de laïcité ou pas?
Non. Alors, il faut bien dire qu'en France, on peut heureusement exprimer ses convictions, y compris ses convictions religieuses. C'est vrai que traditionnellement, il y a une méfiance à l'encontre du religieux dans le monde politique français. C'est historique, c'est notre laïcité qui est la démocratie qui s'est construite en partie, et même beaucoup, contre la religion catholique, contre l'Église catholique. Dans d'autres pays, c'est pas pareil. Angela Merkel, le jour où elle a accueilli les migrants, elle a explicitement expliqué qu'elle avait des principes chrétiens qui l'amenaient à ouvrir ses frontières. Ça n'a fait aucun problème en Allemagne. En France, ce serait impossible. En revanche, en France, ce qu'on demande, c'est une neutralité de l'État par rapport à ses convictions. Et évidemment, on comprend qu'un président de la République, pour justement affirmer cette neutralité de l'État, n'affiche pas ses convictions religieuses. Oui. De cette façon, le général de Gaulle, comme président de la République, il ne communiait pas, il n'allait pas à la messe de manière, en public, il allait en privé dans la chapelle de l'Élysée. On comprendrait mal en France qu'un président affirme ses convictions de manière politique, de manière religieuse. Trop ostentatoire.
Donc la conclusion, c'est pas de religion politique.
Si, quand ça reste au niveau de ses convictions. Si on avait une conception trop rigide de la séparation entre religion et politique, ou entre spiritualité et politique, on risquerait une perte de sens. Tout homme politique, il faut l'espérer, a des convictions, qu'elles soient religieuses ou pas, pas religieuses. Et finalement, la vie spirituelle peut nourrir l'action politique. Sinon, on aurait une action politique complètement fonctionnelle, complètement gestionnaire, sans âme. Comme disait Charles Péguy, la politique se moque de la mystique, mais c'est encore la mystique qui nourrit la politique, quelle que soit cette mystique. On ne voit pas pourquoi les responsables politiques n'afficheraient pas les sources de leurs inspirations.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de retour à la théocratie dans ce cas?
Alors, de fait, la difficulté, c'est que la religion, ce n'est pas une conviction comme une autre. C'est une conviction qui apporte du sacré. Et donc, on risque de sacraliser la politique parce que si c'est sacré, c'est intouchable, c'est une vérité absolue. Et quand on parle religion, effectivement, on pense plus dogme que conviction. C'est pour ça que dans nos sociétés pluralistes, la conviction religieuse, si elle existe, elle doit s'accompagner du dialogue. Si une personne exprime ses convictions religieuses, elle doit accepter le débat. Ok pour dire qu'une réforme de la sécurité sociale peut s'inspirer en partie de convictions chrétiennes, mais on peut pas dire que c'est l'unique application possible de convictions chrétiennes. Parce que même au sein de la même religion, on peut avoir les mêmes principes, mais la mise en œuvre peut être différente. Par exemple, c'est au nom de convictions chrétiennes que certains députés ont voté en 1974 la loi sur l'avortement. C'est au nom de convictions chrétiennes que d'autres s'y sont opposées. Donc la politique est faite de convictions et il serait sans doute plus intéressant d'entendre nos hommes politiques en parler de manière plus fréquente. Ça redonnerait peut-être du sens à la politique, mais elle est aussi faite de débats et c'est dans la mise en œuvre de ces convictions que s'installe l'espace démocratique.